ondes poétiques. Au festival Voix Vive, à 7h.
Je rappelle à nos auditeurs que donc nous sommes ici à 7 dans les hauts jardins du Château d'Eau, dans le parc Simone Veil, à l'occasion du festival de poésie Voix Vive. Adam Mendes, Marc-Henri Arfeu.
À Burgos, il y avait un atelier, en quelque sorte une lecture avec des enfants. Et ce n'est pas du tout un public auquel je suis habituée. Justement, j'ai toujours travaillé avec des adultes et je préfère du public universitaire, du public adulte, que ce soit pour les lectures, pour les ateliers. Les enfants, les jeunes publics me déstabilisent complètement.
Pourquoi ?
Eh bien, c'est une excellente question. je ne sais pas. Je pense que c'est quelque chose vers quoi je vais. C'est la prochaine...
Ils répondent mal ? C'est-à-dire qu'ils n'intègrent pas ce que vous leur dites ?
Je ne sais pas. Non, c'est vraiment, je n'ai pas l'habitude. Je ne peux pas vous dire... Je ne peux pas juger de leur réaction. Je n'ai pas l'habitude. Je n'ai pas été attirée. Je n'ai pas été exposée à ce public-là. Et donc, je ne peux vraiment pas dire que j'en ai ni le goût ni l'habitude.
Mais à partir de quel âge est-ce que vous avez commencé à rentrer dans le monde littéraire ? Et comment ça s'est construit pour vous ?
Alors, je ne sais pas si j'y suis rentrée. Si, ça y est.
En tout cas, pas sorti,
c'est vrai. Comment j'y suis rentrée ? J'ai publié mon premier livre en 2016, si votre photographie est à jour.
Je confirme.
Donc, Les témoins, los testigos, publié aux éditions Villa Cisneros à Toulon. Et j'habitais à ce moment-là en Nouvelle-Zélande. J'ai commencé à traduire en espagnol parce que j'habitais avec des Argentins. J'ai voulu qu'ils comprennent ce que je racontais un peu. Pourquoi je passais autant de temps enfermée dans ma chambre à traduire quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et ensuite, quand ça a été publié en France, ça a été un partenariat avec l'Alliance française de Quito. Donc je suis partie en Équateur présenter le livre. Et j'ai décidé d'y rester. Il y a eu donc cette bourse de création de résidence 3 semaines pour faire un petit livre à l'issue de ce séjour-là. Et bon, bah voilà, à partir de là, j'y suis restée. J'ai décidé de lier... Je ne sais pas si j'ai décidé. En tout cas, j'ai lié les voyages et l'écriture. Et petit à petit, en Amérique latine, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... On saute beaucoup plus facilement d'un événement littéraire à un autre. En France, quand on me disait « Mais qu'est-ce qu'il y a chez vous ?» Le Festival de Sète, très peu de gens connaissent. Et puis le Marché de la Poésie à Paris, j'avais du mal à dire autre chose. On a des médiathèques qui sont actives parfois. Je suis pas forcément... c'est pas moi qui parle le mieux de mon pays, je pense. Peut-être pour ça que je suis rentrée aussi, pour mieux en parler.
Et comment se fait-il que les gens d'Amérique latine soient plus sensibles à la poésie que chez nous ? Peut-être parce qu'on est plus cartésiens ?
Peut-être. Je pense vraiment qu'on a, en France, si on doit citer 3 poètes vivants, si vous demandez à quelqu'un qui n'est pas de milieu littéraire, il ne saura pas.
C'est compliqué.
On dit Rimbaud, Baudelaire. Ah, ok. Et après, Camus. Et en Amérique latine, je crois que c'est resté très vivant. La poésie n'est pas partie ne s'est pas séparée du peuple. Ça paraît complètement peut-être cliché ce que je dis, c'est possible, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, que je l'ai senti, qu'il y a une conscience du poids, de la valeur du mot. Et quelqu'un qui sait manier les mots c'est du pouvoir aussi, et c'est de la beauté. Quelqu'un qui est propriétaire de ça, je parle n'importe comment là, ça y est.
Non, c'est
quelqu'un
bien.
qui sait jouer avec ça, c'est quelqu'un à qui on doit faire attention. Et la place du poète, socialement, politiquement, publiquement, a un poids. Et c'est très beau à vivre et ça donne beaucoup d'espoir. Oui. Alors qu'en France, quand on dit je suis poète, haha.
Est-ce que cette sensibilité est due aux racines espagnoles ou aux racines indiennes, à votre avis ? Cette sensibilité à la poésie, est-ce que c'est dû aux racines espagnoles ?
C'est le syncrétisme, c'est l'histoire d'Amérique latine, le chemin que ça a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est tellement mezclado, mêlé, que je crois que c'est une terre d'extrêmes, l'Amérique latine en général. Ce que je dis, c'est ce qui m'a toujours frappée dans ces voyages-là, c'est la desmedida, c'est la démesure, toujours. Dans la violence, dans la beauté, tout est décuplé. Et donc le pouvoir des mots aussi, la poésie, je crois qu'elle a beaucoup de place là-bas. Et beaucoup de place pour l'accueillir. Ouais.
Vous écrivez en français ainsi qu'en espagnol. Quelle est votre langue maternelle, si j'ose dire ?
langue maternelle, je suis née en France, j'ai appris le français. L'espagnol, je l'ai appris quand j'étais au lycée, j'avais 14-15 ans.
Parce que quand vous parlez, quand vous vous exprimez à nous, vous parlez également avec des mots espagnols.
Parce que oui, du coup, parce que j'écris, je lis, je performe, je joue en espagnol, je chante en espagnol. C'est une langue qui a pris beaucoup de place. J'ai dit que j'ai l'impression de m'en être souvenue quand je l'ai apprise. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Ça ne m'intéresse pas forcément de le creuser pour l'instant.
Mais comment on traduit un poème ? Ça me paraît assez intéressant parce qu'il y a forcément des termes dans des langues, dans différentes langues qui n'existent pas.
C'est là tout le jeu. C'est comment trouver la force équivalente. Ce n'est pas un équivalent, c'est comment avoir la douleur, la beauté équivalente à travers, incarnée dans un mot. Parfois, ça emmène sur une image complètement différente. Après, c'est le choix du traducteur d'harmoniser le texte original avec sa traduction. Moi, souvent, sur le dernier livre, Paisajes cubanos con lluvia, le paysage cubain avec pluie, c'est parfois tellement imbriqué les deux, j'ai travaillé tellement les deux en parallèle, que l'un a déteint sur l'autre. Quelque part, ils ont été tissés ensemble jusqu'à se ressembler. Vraiment, c'est pas une traduction, je les ai écrits en deux langues. Voilà, l'un est venu moduler l'autre. Ouais.
La poésie, c'est également de la musicalité. Est-ce que c'est plus facile en espagnol ou en français ?
Alors facile, c'est pas le terme que j'emploierais, mais c'est... Il y a un plaisir de la langue latine, en espagnol, en italien, en portugais, ça chante bien sûr. Et le français, j'aimerais tellement entendre le français. Enfin, comme on n'entend pas sa langue maternelle vraiment, on l'entend autrement. Et je pense que passer par la langue étrangère m'a permis de toucher autre chose poétiquement, d'avoir une musique qui était autre, que j'ai essayé de faire mienne. Ouais.
Je vous propose que vous nous lisiez un de vos poèmes.
Alors du coup,
si vous le voulez bien.
J'imagine.
En français.
En français. Ah, en français, bon.
Alors, quand même.
Juste en français, le poème.
C'est plus simple pour nous.
Même si je traduis tout. A ver, un poème, un inédit que j'ai écrit là, pendant ces jours d'enfermement. Mais c'est pas du tout triste, vous verrez. Dans l'inertie des jours, nous convoquons la brûlure. La distance est un jeu sur le damier des semaines. Promener son fou, son cavalier, sa reine. Échec. Ascenseur de l'amour en panne. Leur cage, chambre de résonance où l'averse mécanique des « je t'aime » stagne dans les bouches marchandes. Et le sang qui rassemble tout. Et la lune, si femme, dessus nos cosses trop pleines que la mort exorcise, slalom entre des perspectives élémentaires et l'intranquille retraite des livres, asile obscur du foyer, où les miroirs multiplient les Judas vers l'ailleurs manquant, des trains, des trains. Des trains dans la gorge, encore le fer de leurs roues, les bibops du départ, les ventres si pressés et les mains singulières. Tout ce qui est donné dans la vitesse du paysage. Ces endroits repoussés où il est tant de lumière que nos yeux se renversent dans les palais tamisés du souffle. Nos grottes intérieures où rien n'est contenu que ce qui est créé. Quoi que l'on nous fasse, nous voyons, dans la matière dense, des musiques claires. Malgré les barricades, l'œil féroce du soleil entre dans la maison.
Oui, peut-être en espagnol.
Ah ben, je ne l'ai pas celui en espagnol, celui-là il est écrit en français.
Ah. Un autre en espagnol, alors.
Un autre en espagnol. Une lettre d'Équateur que j'ai déjà dit, mais que je dis toujours avec grand plaisir. Te pienso en la tabla de madera atravesada cada mañana como puente sobre el exilio. En la selva donde llueve como si fuera la lluvia última al cerrar los ojos en el olor a pólvora o añejo. El agua invadiría la pieza. La cama se levanta y va a la deriva en el bosque de serpiente, de café, de cacao aún no completamente rojo, te escribo. Desde esta casa queda el vacío que nadie nunca tomó la molestia de terminar. Mi puerta cayó esta mañana cayó como una cortadura adentro. Afuera, el paisaje sangraba por este marco demasiado blanco. Mi piel, la madera herida, se agarra de mi mano. Una pareja de murciélago me despierta porque es hora de añoranza. Te escribo, hasta cuando no te escribo también significa te vuelvo letra, te tomo hacia mi antojo, es siempre es tu ausencia que me empuja a decir esta vida invisible que reanimo para vos. Con lo salvaje de creer que uno solo puede amar para dos, en el marchito dulzor de flores moribundas te borro. En el olor a fósforo frotado te grito desde un piso violado por vidas más humildes, te escribo, hasta que la lluvia por fin invada el cuarto. Je pense à toi. Dans la planche de bois, traversée chaque matin comme un pont sur l'exil. Dans la jungle, où il pleut comme pour la toute dernière fois, à fermer les yeux dans les odeurs de rhum vieux et de poussière, l'eau envahirait la pièce. Le lit se soulève et part à la dérive dans la forêt de serpents, de café, de fèves, de cacao, pas tout à fait rouge. Je t'écris depuis cette maison qui donne sur le vide, que jamais personne n'a pris la peine de finir. Ma porte est tombée ce matin, tombée comme une coupure dedans. Dehors, le paysage saignait par ce cadre trop blanc. Ma peau, le bois blessé, s'accroche à ma main et un couple de chauves-souris me réveille parce qu'il est l'heure du manque. Je t'écris même quand je ne t'écris pas. Je t'écris cette fois-ci, je te mets en mots, je te prends ici, je te couche sur le papier à ma guise. C'est toujours ton absence qui me pousse à dire cette vie invisible que je ranime pour toi. Avec la sauvagerie de croire qu'on peut seul aimer pour deux, dans la touffeur suave de fleurs finissantes, je t'efface dans des pays imaginaires, je t'écris depuis un plancher violé par des vies plus humbles, je t'écris dans l'odeur d'allumettes craquées, je t'écris jusqu'à ce que la pluie, enfin, envahisse la chambre.
Je confirme que la musicalité est différente en espagnol et en français. C'est vrai qu'en espagnol, on se sent emporté peut-être davantage. Enfin, il me semble. Alors, à vous voir, à vous entendre et à vous voir, je sens que vous avez d'autres arts à votre compte, en particulier le théâtre.
C'est vrai que j'ai grandi dans une famille où le théâtre est assez important. Et j'en ai toujours un peu fait. Puis j'ai mis ça de côté pendant quelques années. Puis là, c'est revenu tout seul avec la poésie. Le fait de... Bah, comme vous voyez, j'apprends par cœur. Je connais par cœur beaucoup de choses. Et cette envie de le donner avant tout le processus éditorial et de correction et d'attendre une revue. Et ça prend des mois. Là, j'ai des textes qui sont publiés dans le Phoenix. Dans quelques semaines, ça fait 8 mois que je les ai envoyés. Donc voilà, moi, j'écris tous les jours. Je travaille tous les jours. Donc comment travailler au plus près du corps, de la voix, et comment partager ça avant d'être en édition posthume.
Quand même.
Alors voilà, donc le théâtre est revenu, et le corps est revenu, et la voix bien sûr. Et je, de plus en plus, je vais vers le chant, vers une musicalité. J'ai de plus en plus besoin à nouveau d'encore plus de musique. Ouais. Ouais. Donc j'ai 2 spectacles poétiques que j'ai créés à partir de l'an dernier, il y a 2 ans. Le premier s'appelle Écrire debout, c'est un carnet de voyages vivants autour de 15 pays que j'ai traversés ou dans lesquels j'ai vécu et sur lesquels j'ai écrit, souvent en bilingue. Et donc j'en ai fait un spectacle bilingue avec des objets qui viennent de tous les coins du monde, de Nouvelle-Zélande, Biélorussie, Indonésie, Colombie, etc. Et donc qu'est-ce qu'on raconte avec ça? On laisse le public choisir un pays. Où est-ce qu'on va? On y va. Et on voit ce qui vient. Et donc voilà, ça c'est la scène, le chant, le corps. Et l'autre spectacle, c'est sur Cuba. J'ai pris du sable, une flaque de sable qui était l'île. Il y a 13 tableaux qui ont été peints sur ce livre-là. Donc j'ai disposé les 13 tableaux, une corde à linge avec tous les textes. Et fait quelque chose. Voilà, c'est un travail constant. C'est merveilleux.
Et qu'est-ce qui vous inspire le plus?
La vie. tout le temps. Tout est inspiration, tout est respiration possible.
Vous n'avez pas de sujet particulier d'écriture ?
Je ne me comprends pas. C'est très variable. Je pense que j'attaque pas mal les pays dans lesquels j'ai pu voyager. J'aime bien détourner la vision touristique primaire. J'aime bien aller de l'autre côté. J'aime bien voir ce qu'il y a derrière.
La réalité.
Bien sûr, c'est une réalité. Après, c'est celle qu'on choisit de voir ou non, et de creuser ou non. Ça a particulièrement été le cas pour la Nouvelle-Zélande et pour Cuba. Voilà, détruire la carte postale. Et qu'est-ce qu'il se passe vraiment ? Comment on respire là-bas ? Et dans quels mots ? Et dans quelle forme ? Donc voilà, l'inspiration. Et j'ai deux sujets, je disais, de plus en plus de prédilection, qui ne sont pourtant pas, moi, familialement, la guerre civile espagnole, qui est un sujet qui me tient énormément à cœur, et c'est la mémoire de ce conflit-là. Et les disparus d'Argentine et du Chili, et la dictature de Pinochet, la mémoire. C'est le prochain projet, aller au Chili, rencontrer Raoul Solita et écrire dessus.
C'est relativement engagé, quand même, comme démarche.
Pas que relativement.
Ouais.
Je pense qu'il faut s'engager.
Ça vous tient à cœur ?
Ouais. Pas qu'à cœur, à tout. Enfin, j'ai le cœur qui prend toute la place aussi.
Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-Henri Harfeu, de cet engagement dans l'écriture ?
De toute façon, toute écriture est un engagement dans un horizon de sens, qu'il soit politique, ontologique, émotionnel, et souvent d'ailleurs, il est tout cela à la fois. C'est une cristallisation qui s'ouvre dans toutes les directions.
Vous travaillez souvent avec des jeunes, même on va dire au quotidien. Vous êtes professeur de philosophie. Excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Donc vous êtes professeur de philosophie en terminale dans une classe à Lyon. Qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un qui travaille dans l'écriture, qui écrit ce rapport à la jeunesse et à l'école, tout simplement, à l'enseignement ? Est-ce que ça vous apporte quelque chose ?
Oui, d'autant plus que je ne suis pas devenu enseignant par vocation. Comme beaucoup de gens de ma génération qui ont fait des études de philosophie, c'était un peu la pente naturelle. On se retrouvait un jour dans les chaussures d'un professeur alors qu'on n'avait pas du tout pensé le devenir. Ce serait différent maintenant d'ailleurs, parce que les orientations à partir de ces études sont beaucoup plus nourries, beaucoup plus diversifiées. Mais je me suis trouvé bien devant la jeunesse. Parce que particulièrement ce moment de la vie où on a 17-18 ans, et je trouve qu'il y a une très grande fraîcheur de l'esprit qui n'est pas encore dénaturée par le sentiment d'avoir trop appris et de maîtriser, comme ce sera parfois le cas plus tard, et qui est déjà sorti des limbes du collège où on est encore porté par ce qui advient, quoi. Et là, elle est vraiment, on a des esprits qui s'ouvrent et c'est intéressant.
Il y a plus d'humilité peut-être ?
De questions, oui. Alors d'humilité, ça dépend des personnes, mais de questions, certainement. Ouais. Oui, de questions. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant.
Je vous propose, pour commencer à parler de votre travail, que vous nous fassiez la lecture d'un de vos poèmes, si vous le voulez bien.
Avec plaisir. On va prendre un livre que vous n'avez pas tout à l'heure cité, qui est publié aux éditions de la Margeride, Cordologie. Et puis comme les poèmes sont assez brefs, si vous permettrez, j'en lirai un autre du petit dernier chez le même éditeur, qui est d'ailleurs présent sur la place. Et le petit dernier qui est sorti pour le festival s'intitule Suite Toscane.
Très bien.
Alors voici tout d'abord Cordologie, avec des œuvres de l'éditeur Robert Lobet, qui est en même temps plasticien. Des jours anciens persistent aux ténues des parquets. Bibliothèque où tu descends feuilleter les robes abandonnées. Y veille la fine obstination des ongles, les peaux de transparence, les astres délicats de la poussière sous l'aile d'un grand matin. Et les secrets de clés muettes, rêvant de portes oubliées, remontent au firmament de leurs tiroirs, avec les noms d'aucun visage, les agendas de la lumière, quelques monnaies de lac à l'œil de chat. Celle qui est nue respire sur le bassin du lit, buvant l'essor des hirondelles au ciel frôlé de mai. Et voici maintenant un très court extrait de Suite Toscane, donc qui est le plus récemment paru. Ombreuse et lumineuse, ruchée de voix et de regards, aux forêts constellées, ciel intérieur, avec la marche de l'été.
Je rappelle donc à nos auditeurs, donc petit rappel également à nos spectateurs, cette émission sera diffusée sur les ondes de Radio Aviva, FM+, Radio Grille Ouverte, Radio Languedoc, Radio Pays d'Hérault et Radio Pays d'Hérault Sud. Donc on vient d'entendre un poème de Marc-Henri Harfeux. Comment est-ce que vous êtes rentré, vous, dans le monde de la poésie? Comment est-ce que vous avez été attiré dans cet univers-là?
Mais je crois que ça fait partie probablement de l'élémentaire d'une vie, parce qu'on y entre probablement avant même le langage par la sensation. Pour moi, par exemple, l'émotion lumineuse, qui a toujours été très importante, il me semble, sans preuve, que mes premiers souvenirs d'enfance, ceux qui flottent avant toute datation possible, sont des souvenirs d'oscillation de lumière. Et je pense qu'un poème est toujours un chercheur de lumière. Alors après, ben, y a les apprentissages du langage. Dans mon cas, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire avant, il y a eu un moment décisif qui était aussi la graphie de l'écriture. Je me rappelle ça très très bien, qu'avant de savoir écrire, et probablement avant de savoir lire, j'imitais les écritures, notamment l'écriture de mon père, dans les marges d'albums d'enfants. Il y avait une espèce d'énergie, de vitesse, d'angulation qui a sans doute joué un rôle formateur de l'expérience poétique aussi. Et puis après, bien la rencontre avec la langue à l'école, la poésie scolaire, même la poésie scolaire forme évidemment. D'ailleurs, elle est souvent celle de grands poètes. En tout cas, dans ma génération, c'était le cas.
Oui, mais c'est toujours dans des contextes un peu difficile, étant donné que les enfants n'ont pas forcément envie, et c'est compliqué d'apprendre quelque chose à un enfant qui n'a pas envie, notamment la poésie. Ça peut traumatiser.
Ah, mais moi non, je n'ai pas eu besoin de cette assistance, mais
vous,
oui, je sais, bien sûr, j'ai compris. Mais non, mais je pense essentiellement, cela revient à ce que disait Ada tout à l'heure, et à mon avis, elle a vraiment raison, c'est qu'il y a une espèce de presque de puritanisme envers la poésie en France. Au point où, d'ailleurs, moi, je connais des professeurs de lettres qui ont peur d'enseigner la poésie. C'est quand même assez curieux. Hein. Alors, à quoi cela tient-il? J'avoue que je me perds en conjecture. Mais vous parliez d'esprit cartésien tout à l'heure. Mais Descartes était un poète. Quand vous lisez les méditations métaphysiques, c'est tout sauf l'œuvre d'un esprit cartésien. C'est un aventurier, c'est un poète baroque de la philosophie, Descartes. Alors d'où est venue cette rigidification qui entraîne cette peur devant la poésie, je l'ignore, mais à mon avis, elle se communique aux enfants. Et par conséquent, elle leur donne le sentiment qu'ils ne sont pas autorisés, qu'ils ne sont pas légitimes, qu'il faudrait d'abord avoir été savant pour atteindre la poésie. Non, je pense qu'il faut aller vers cette expérience avec beaucoup plus de spontanéité, de fraîcheur, et montrer à l'enfant que le poème n'est pas un objet interdit qu'on doit éviter de toucher sous peine de le briser, mais qu'il faut s'en emparer.
Peut-être aussi parce que les jeunes ont été formés aux alexandrins. Quand ils étudiaient de la poésie, c'était qu'est-ce que ça peut être? Où est le? Est-ce que c'est une ode? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Plein de termes techniques qui font que finalement la poésie n'est plus ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire l'imagination, l'image, la lumière.
Eh bien, de toute façon, la forme ne peut avoir de sens qu'à partir du moment où elle est habitée. On est bien d'accord. Moi, j'ai eu l'occasion, comme tout le monde, de croiser des gens qui maniaient, par exemple, l'art d'écrire un sonnet. Sauf que c'est absolument mort et vide, et que le poète, le vrai poète de sonnet, c'est celui qui va d'abord habiter cette forme, lui donner un éclair. Alors, il est certain que commencer par la forme et la technique avec l'enfant, c'est probablement pas la meilleure des manières. Et je suis presque certain que si l'enfant a déjà été initié à aimer la substance poétique comme un aliment qu'on recueille par la bouche, alors la forme, il l'adoptera tout naturellement quand elle lui expliquera. Vous savez, je me souviens, il y a des années de cela, j'avais appris que je ne sais plus dans quel pays d'Europe centrale, on apprenait aux enfants la Torah sur des planches en bois sur lesquelles qu'on enduisait de miel, et quand l'enfant avait bien appris sa leçon, il pouvait lécher la planche. Et ben, c'est ce qu'il faudrait faire avec la poésie.
Oui, et aussi les lettres hébraïques étaient donc enduites de miel.
Oui.
Et en léchant la lettre, on arrivait à apprendre à lire.
C'est merveilleux, ça. Ouais, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Même les mathématiques, il faudrait lécher le nombre 7, multiplier les coups de langue pour atteindre 1000. Enfin, ce serait magnifique.
Il y aurait de quoi faire avec pi.
Ah, alors avec pi, on n'en finirait plus.
Est-ce qu'il y a des thèmes ou des idées qui reviennent fréquemment dans vos poésies ?
C'est difficile de parler de soi-même parce que c'est un peu...
Mais on a envie de vous connaître.
Vous êtes là.
Oui, oui, je sais, mais bon... Non, mais on est souvent mauvais juge de soi-même. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que la préoccupation centrale qui m'habite, après elle se déploie de différentes manières, c'est l'énigme du monde. Le monde est une énigme présente sous nos yeux, et c'est pas une énigme théorique, hein, abstraite, chiffrée sur de savants rouleaux, mais simplement par sa présence pure. Hein, il y a une énigme de l'être. Bah, tenez, voyez cette feuille, par exemple. Pourquoi a-t-elle choisi précisément ce moment pour faire son coup ? On ne le saura jamais, parce qu'elle ne parlera pas, elle se gardera bien. Mais pour redevenir vraiment sérieux, oui, je crois qu'il y a vraiment une énigme de l'être qui fait que nous sommes devant le monde... dans un état d'enfance et d'innocence, si nous acceptons de nous déprendre de nous-mêmes, et à ce moment-là, tout est possible.
Mais cette énigme, est-ce que l'idée, c'est d'essayer de la résoudre ou d'essayer de vivre avec le fait qu'on n'arrivera jamais à la résoudre ?
Je pense qu'effectivement, il faut accepter le fait que nous n'y entrons que partiellement. J'ai souvent l'impression, c'est une rêverie... profonde de l'enfance qui me revient ainsi, qu'en réalité le monde est un texte dont nous avons l'entièreté sous les yeux, sauf que les mots ont été découpés, que le texte est disséminé, mélangé, jeté de tous les côtés, et donc rassembler le texte de cette formulation mystérieuse est une tâche infinie comme celle du petit quai dans La Reine des Neiges. Sauf que là, il ne s'agit pas d'une prison, il s'agit d'une liberté.
Adam Andes, vous avez l'air inspiré.
Très intéressé, j'apprends. J'écoute, j'aime beaucoup l'image que vient de décrire Marc-Henri. Voilà.
Cette image énigmatique, ça vous évoque quelque chose ?
Là, tout de suite, non. J'étais vraiment perdue dans ce qui... Vous m'avez perdue, là. C'est facile de perdre un poète aussi. Vous lancez une image,
c'est comme un os. C'est le professeur de philosophie qui parlait, c'est pour ça.
Non, je ne suis pas là en tant que professeur de philosophie.
Je me doute.
Peut-être y aura-t-il de nouveau, au mois de septembre, un professeur de philosophie qui se rendra de temps en temps dans un lycée. Mais pour l'instant, on est entre nous.
Mais justement, comment on use de la philosophie en poésie ?
Ah, il faut
est-ce qu'on en use déjà ?
Il ne faut surtout pas... Enfin, je parle pour moi, hein, je ne veux jamais parler au nom de tout le monde, mais pour moi, surtout pas. Il faut déposer les concepts, les analyses, les logiques, quelles qu'elles soient, et se laisser vivre et voyager. Et j'en suis d'autant plus convaincu que de grands philosophes ont eu l'intuition qu'il y a une espèce de limite au-delà de laquelle la philosophie ne peut absolument pas aller. Parce que disait par exemple Merleau-Ponty, ben, il y a un moment à partir duquel le concept est impropre à épouser la chair de l'expérience. Et d'ailleurs, Merleau-Ponty a employé cette notion de chair quasiment poétique parce qu'il se rendait bien compte qu'il faut à un certain moment accepter de se détacher de cette rive et aller ailleurs.
Adam Montes, vous êtes une grande voyageuse.
Montes. Tout le monde dit Adam Montes. Non, mais c'est comme Edmond Dantès. Je crois
ouais,
que c'est...
Ouais.
J'aime beaucoup, mais je corrige. Ou Lola Montes.
Méfiez-vous parce que Edmond Dantès, il se venge.
Bon, je ne vais rien dire.
Adam Montes, donc. Vous voyagez, vous êtes inspiré par les voyages, par des paysages différents, alors que vous, Marc-Henri Harfeu, vous êtes plutôt l'homme de cabinet, de
voyageur immobile.
Immobile, plus immobile en tout cas que Ada.
Oh, il m'arrive de voyager aussi, vous savez, je cache mon jeu.
Oui, mais est-ce que... Donc les inspirations sont très différentes. Est-ce qu'on pourrait faire une connexion peut-être entre ces inspirations différentes ?
Entre nous ?
Oui.
Je ne connais pas bien ton écriture, j'aurais du mal à voir ce qui nous relie, mais c'était intéressant, je trouve, de nous confronter aujourd'hui, parce que justement, on a une approche complètement différente, je pense, de l'écriture, de la mobilité, de même la façon d'en parler. Et pourtant, on écrit tous les deux, donc cette diversité me paraît plus riche que... Enfin, je ne sais pas, après, trouver un pont, ce serait bien aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec Ada, je pense que ce qui est intéressant dans la poésie, c'est la diversité.
Le foisonnement.
Mmh. Oui, et le fait que justement, nous nous découvrons, on ne se connaissait pas avant ce festival, et que nous comprenions que nous avons chacun des mondes qui nous sont propres. Déjà, c'est rassurant parce que ça veut dire que la poésie, justement, est une expression authentique. Ce n'est pas un stéréotype, la poésie.
Ça vient de l'intérieur, on n'est pas cloné, heureusement.
Mais tout à l'heure, vous parliez de l'écriture et de la calligraphie qui vous a marqué quand vous étiez jeune. Est-ce que vous écrivez à la main ou est-ce que vous écrivez sur l'informatique ?
En réalité, les deux.
Ouais.
J'utilise aussi bien l'outil informatique que les instruments d'écriture traditionnels. J'écris même sur téléphone portable.
Des notes comme ça ?
Non, pas des notes, des poèmes. Par exemple, j'envoie des poèmes par SMS à ma femme. Et puis les notes, oui, c'est vrai, je vous assure. Et les notes qui peuvent nous servir à noter un numéro de téléphone, à noter nos courses, les livres à rendre dans une bibliothèque, enfin, des choses comme ça. J'en ai un élément qui est utilisé également pour écrire de la poésie. Donc, et puis j'écris également, effectivement, comme beaucoup de poètes, je crois que tous les poètes le font aussi dans des carnets, sur des papiers, parfois même sur des notes.
Sur les murs.
Alors, sur les murs, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, mais tu me donnes des idées, là. Les murs de Sète ont intérêt à faire attention.
J'ai commencé à écrire à la craie sur des endroits.
Ah, ça, c'est génial, ça.
Ça partira à la première pluie, c'est poème éphémère.
Mais... C'est très beau, cette idée.
J'écris partout, moi aussi, avec tout ce que j'ai sous la main et tous les supports possibles. Les ordinateurs étant des machines capricieuses qu'on peut... perdre, qui peuvent se casser, qu'on peut nous voler, comme ça m'est arrivé l'an dernier. C'est vrai que c'est dur.
Ouais. Donc, vous ne faites pas trop confiance à l'informatique, donc ?
Aucune. Okay. Et non, par contre, tout ce qui rentre là-dedans, ça y reste. J'ai perdu mon manuscrit qui était sur mon ordinateur l'an dernier, j'ai tout recopié de mémoire. Donc ça,
c'est génial.
Je l'ai là. Et jusque-là.
Ouais. Comment on vit de la poésie aujourd'hui ?
Au RSA ? Au chapeau, ma vie en promotion, je dis. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça fait qu'un an que je suis rentrée, donc le RSA, et je refuse un boulot alimentaire. Je refuse une autre solution pour l'instant, tant que c'est possible. Je tiendrai pas 10 ans, mais je tiendrai encore.
Et ça. On vous le souhaite.
Oui, je me le souhaite.
Marc-Henri Harfeu ?
Moi, j'ai une profession et en plus qui me plaît, donc je ne suis pas du tout à plaindre. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la situation d'Ada et il faut beaucoup de courage pour être poète dans ce moment-là. Parce que, si vous voulez, un enseignant qui rentre chez lui et qui écrit, ben, ma foi, il a beaucoup de chance, je dirais. Mais il y a beaucoup de poètes qui vivent, qui vont jusqu'au bout. Moi, j'en ai connu. Alors parfois, après, il y a heureusement des étoiles qui leur sourient et j'espère que ce sera pour toi le cas très vite. Mais oui, il faut une audace, hein, il faut du courage, un très grand courage.
S'il y a des jeunes qui nous écoutent sur les ondes des radios retransmises, est-ce qu'il y a un message justement des jeunes qui se mettent à l'écriture, qui aiment la poésie ? Qu'est-ce que vous pourrez leur transmettre ?
Moi, je citerai de mémoire cette formulation de René Char, « Fais face à ton risque, il te sourira ».
J'ai pensé à la même chose. Bon. Et je pensais aussi ne pas faire autre chose. Et ça, pour le coup, c'est Brel que je vais paraphraser, qui disait « Les hommes crèvent de ne pas faire le tour du monde quand ils en ont envie. Tu sais pourquoi les gens ne font pas de chansons, pourquoi les gens ne dansent pas, pourquoi les gens ne prennent pas des bateaux pour aller au bout du monde, pourquoi les gens n'écrivent pas de livres, pourquoi les gens ne vivent pas de poésie ? Parce qu'ils font autre chose. Et tout ce temps à faire autre chose, c'est du temps perdu. Si vraiment on a ça en soi, je veux dire.
Oui, voilà, c'est ça.
On passe beaucoup plus de temps à s'inventer des excuses qu'à faire les choses. Un peu d'énergie au bon endroit, ça déclenche tout.
C'est quoi qui a été pour vous, par exemple, l'élément déclencheur où vous vous êtes dit, je veux... Non ?
Je ne parlerai pas d'élément déclencheur. Je pense que ça, c'est un sillon qui est creusé en moi plus profond que moi, plus profond que ma conscience. Et j'ai rejoint la conscience de ce sillon déjà creusé en moi, je pense. C'est descendu avec le temps. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire autre chose. Enfin, beaucoup de temps. Oui, beaucoup de temps.
Trop ?
Trop, non, non. Le temps qu'il fallait pour être là aujourd'hui.
Marc-Henri Harfeu, parlez-nous de votre collaboration à la revue Souffle.
Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer la revue Souffle à travers Jeannick Rouget-Dutheil, qui est encore aujourd'hui, je crois, une de ces grandes animatrices de transmission de ce patrimoine. Alors, il faut dire que c'est une magnifique revue qui est une des plus anciennes revues de poésie toujours vivante en France. Je ne dirais pas que c'est la plus ancienne, parce que je ne suis pas compétent pour le dire, mais c'est une des plus anciennes. Elle est actuellement animée par Christophe Korps, qui vit dans la région, qui est lui-même poète. Et c'est vrai que c'est une revue étonnante. D'ailleurs, quand il a repris le flambeau de la revue, il l'a transformé en revue objet. Il y a eu des numéros qui ont fait date, comme par exemple un numéro sur Dada, un numéro sur l'animalité. C'est vrai que c'est une revue extraordinaire. Alors là, on attend un numéro dont le titre est « Le théâtre du monde ». Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, mais je pense que malheureusement, le confinement a dû, comme pour beaucoup de pratiques de cette nature, retarder l'instant de la parution.
Quelle est la périodisation ?
Alors, à une époque, il me semble, du temps où la revue était... le rédacteur en chef était Jean-Pierre Védrine, je crois que c'était 2 ou 3 numéros par an. Et puis Christophe Corr a réduit petit à petit la voilure parce qu'il avait des projets beaucoup plus vastes et assez ambitieux autour de numéros vraiment noués thématiquement de façon très intense. Et actuellement, on en était à un numéro par an, mais je ne sais pas du tout comment va être la suite, je ne sais pas.
Et lorsque vous intervenez sur France Culture, est-ce que ce sont des thèmes qui sont préétablis ou c'est vous qui décidez ?
Moi, j'ai été invité 2 fois sur France Culture dans le cadre d'émissions où on m'a invité. Donc, je n'avais pas établi de terme, hein, de thème, pardon. On m'a invité dans le cadre d'une émission et puis d'une autre. Et le thème, il était fixé. La première fois, j'avais été invité dans une émission de Raphaël Antoven pour parler, en fait, de... C'était au moment de la préparation du baccalauréat. Et c'est une très belle idée. Je crois que Adèle Van Rett reprend chaque année. C'est la copie de philo. C'est-à-dire que... on m'avait contacté, j'avais proposé des sujets, et puis en fait, on en traitait un dans une conversation avec Raphaël Antoven. Et j'ai ensuite été invité une fois par, son nom m'échappe en ce moment, mais c'est un de ses amis, et d'ailleurs, il était lui-même présent, une très belle émission sur Camus, il y avait beaucoup de monde qui était là, voilà.
Et quels sont vos prochains projets ?
J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs livres de poésie qui sont en travail ou sur le point de pouvoir être présentable. Et puis je travaille depuis plusieurs années un roman qui s'intitule Au commencement et qui se passe au Japon en l'an 1000. Oula. C'est l'histoire d'une poétesse errante.
Et vous, Ada ?
Eh bien, ce que je disais sur le Chili, voilà, à savoir si les frontières vont s'ouvrir et que je pourrai partir. Et j'ai un recueil qui se publie aussi aux éditions Maelstrom en Belgique. Et je prépare le festival des éditions Maelstrom, où on m'a demandé une performance sur les champs de la transition, l'exil. Donc, parler des migrants, parler encore un thème engagé, nécessaire, vital. Et donc, c'est ce qui m'occupe le plus. Je vois à court terme, moi, ne me demandez pas dans 2 ans.
Vous avez bien raison, ça permet de,
ça change très
de changer tout le temps.
Bien Camille, je crois qu'on arrive au terme de cette émission.
Oui.
Je rappelle à nos auditeurs que donc nous sommes ici à Sète, dans les hauts jardins du Château d'Eau, dans le parc Simone Veil, à l'occasion du festival de poésie Voix Vive. Merci à Adam Andes.
Merci à vous. Gracias.
Et merci à vous, Marc-Henri Arfeu.
Merci beaucoup.
Merci, Camille.
Merci, Raphaël.
Je rappelle également que cette émission était le fruit d'une coproduction entre Radio Aviva et FM+, et diffusée sur ces deux radios, ainsi que sur Radio Grille Ouverte, Radio Languedoc, Radio Pays d'Hérault et Radio Pays d'Hérault Sud. Longue vie à Voix Vive, et on se retrouve très bientôt sur les ondes poétiques.
Merci.
Onde poétique. Au festival Voix Vive, à 7h.